Chapitre 31. Machiara. Alors que le bateau s'éloignait du quai, Ninevé jeta son masque sur la banquette molletonnée, à côté d'elle, et se laissa aller en arrière, les bras croisés et un poing serré sur sa natte. Puis elle fixa rageusement le vide. Son don de prévoir le temps lui soufflait toujours qu'une tempête terrible se préparait, du genre qui arrachait les toits et faisait s'écrouler les granges. Et elle aurait été presque soulagée que le fleuve, confirmant sa prémonition, se démonte à la minute même, menaçant de submerger les terres.
« Si ce n'est pas une affaire de climat, Ninevé, »
répéta-t-elle, imitant une voix familière.
« C'est toi qui dois y aller. La maîtresse des navires pourrait se sentir insultée si nous n'envoyons pas la plus puissante d'entre nous. Elle sait que les Aes Sedai accordent une grande importance à la hiérarchie. Foutaise !»
La tirade d'Elaine, mot pour mot, à l'exception du « foutaise ». La fille héritière pensait qu'entendre toutes les absurdités émises par Myrilil était préférable pour elle à une nouvelle confrontation avec Nesta. Quand on était mal embarqué avec quelqu'un, il se révélait difficile de revenir en arrière. Matt illustrait parfaitement ce théorème. Et si les rapports avec Nesta d'Inreas de Lune s'étaient encore détériorés, la maîtresse des navires aurait fini par les forcer à briquer le pont de son bateau.
« Horrible bonne femme !»
grogna Ninevé en s'agitant sur sa banquette. Avienda n'avait pas été plus réceptive qu'Elaine quand elle lui avait suggéré d'aller voir les Atta admirés. Pourtant, ceux-ci étaient fascinés par l'Aiel. Ninevé prit une voix haut perchée et agacée, une très mauvaise imitation de celle de l'Aiel, mais un très bon rendu de son ton.
« Nous serons informés de ce problème quand nous le serons, Ninevé Almeara. Peut-être apprendrai-je quelque chose aujourd'hui, en surveillant Jaishim Karidin. »
Si elle n'avait pas su qu'Avienda n'avait peur de rien, Ninevé aurait pu prendre son empressement à espionner Karidin pour l'expression d'une angoisse difficile à définir. Passer une journée entière dans une rue écrasée de chaleur, au milieu d'une foule excitée, et aujourd'hui ce serait pire encore avec la fête, n'avait rien de très amusant. En toute logique, l'Aiel aurait dû préférer un gentil petit trajet en bateau. Le bateau en question tangua. Un gentil petit trajet, vraiment? Rafraîchissant, grâce à la brise chargée d'humidité qui soufflait sur le fleuve. Le bateau de malheur tangua de plus belle.
« Par le sang et les cendres !»
gémit Ninevé. L'estomac retourné, elle se plaqua une main sur la bouche et tapa du pied contre le bas de la banquette pour exprimer son juste courroux. Si elle devait continuer à fréquenter le peuple de la mer, elle finirait par parler aussi mal que Matt. Mais elle ne voulait pas penser à lui. Un jour de plus à devoir se plier à la volonté de cet homme. Et elle aurait arraché jusqu'aux derniers cheveux de sa tête. Pour l'instant, il n'avait rien exigé d'extravagant. Mais ça ne durerait sûrement pas, et ses manières...
« Non !»
s'écria l'ancienne sage-dame.
Je veux apaiser mon estomac, pas lui donner d'autres raisons de se vider.
Après le tangage, on était passé au roulis, les joies de la navigation. Ninevé tenta de penser à des vêtements. Contrairement à Elaine, elle n'était pas obsédée par son apparence, mais s'intéresser à la soie et à la dentelle avait un effet apaisant. Tout avait été choisi pour impressionner la maîtresse des navires et regagner un peu de terrain perdu, en supposant que ce soit possible. Une robe vert rayée de jaune au-dessous de la taille et un corsage brodé de fil d'or sur les manches et la poitrine, avec un peu de dentelle dorée à l'ourlet, au poignet et au col. Un col qui aurait peut-être dû être plus au ras du cou, mais Ninevé n'avait dans sa garde-robe aucun modèle de ce genre. De toute façon, attendu les coutumes des Atta admirés, la tenue était un parangon de pudeur. Nesta devrait prendre sa visiteuse comme elle était, car Ninevé Almeara ne reniait sa nature pour personne. Les épingles en opale jaune qui tenaient ses cheveux lui appartenaient. Un cadeau de la panarche du Tarabone, rien que ça. Mais le collier d'or rehaussé d'émeraudes et de perles était un présent de Tailin. Un bijou bien plus somptueux que tout ce qu'une fille de Dorivière aurait jamais rêvé porter. En remerciement d'avoir fait venir Matt, avait dit Tailin. Une remarque qui n'avait aucun sens, mais la reine pensait sans doute avoir besoin d'un prétexte pour offrir un bijou si précieux. Les deux bracelets en or et ivoire étaient une contribution d'Avienda, qui détenait une jolie petite collection de bijoux pour une femme qu'on voyait rarement avec autre chose que son collier d'argent. Quand l'ancienne sage-dame avait voulu lui emprunter le bracelet au motif de roses et d'épines, une petite merveille en ivoire qu'elle ne mettait jamais, Avienda s'en était emparée et l'avait serré contre son cœur, comme s'il était son bien le plus précieux. Plus étrange encore, Elaine s'était mise à la consoler. Pour un peu, les deux femmes auraient éclaté en sanglots dans les bras l'une de l'autre. Il se passait quelque chose de pas très net entre ces deux-là. Si elle ne les avait pas su trop sensées pour ça, Ninevé aurait parié qu'il y avait un homme là-dessous. Enfin, Avienda était trop sensée pour ça. Après tout, Elaine soupirait après Rand, une faiblesse que Ninevé ne pouvait guère lui reprocher, compte tenu de sa propre... Brusquement, elle sentit un tissage de saïdar, pratiquement au-dessus de sa tête. Un tissage très puissant qui... L'eau salée de l'embouchure du fleuve se déversa sur sa tête, la submergeant. Entravée par sa robe, elle tenta pourtant de remonter à la surface. Alors qu'elle perdait espoir d'y arriver, sa tête émergea enfin de l'eau, et elle s'emplit les poumons d'air, au milieu de plusieurs coussins qui flottaient autour d'elle. Étonnée, elle tenta de se repérer, et finit par reconnaître un des fauteuils de la cabine au-dessus d'elle, et un fragment de sa cloison. Ninevé était à l'intérieur d'une poche d'air, très étroite, puisqu'elle n'aurait pas eu le loisir de mettre les bras en croix sans la percer. Mais comment, que s'était-il passé? Avec un bruit sourd, la cabine renversée toit par-dessus plancher percuta le fond du fleuve, et la poche d'air parut rétrécir. La priorité, au lieu de se poser des questions, c'était de sortir de là avant d'avoir épuisé sa maigre réserve d'air. Pour avoir souvent sauté dans les étangs du bois de l'eau chez elle, l'ancienne sage-dame savait très bien nager, mais pas à ses profondeurs et dans des eaux très calmes. Après avoir respiré à fond, elle se plia en deux et plongea vers le bas, là où devait se trouver la porte. Avec sa robe, battre des jambes s'avéra difficile. La déchirer? Pour émerger en sous-vêtements avec des bijoux pour défendre sa pudeur? Des bijoux, se dit en passant, qu'elle n'avait aucune envie d'abandonner au fond du fleuve. Enfin, si elle déchirait sa robe, elle perdrait la bourse accrochée à sa ceinture. Et elle préférait se noyer que d'être privée de ce qu'elle contenait. Dans l'eau opaque, les doigts tendus de l'ancienne sage-dame rencontrèrent du bois. En tâtonnant, elle trouva la porte, localisa assez vite l'encadrement et finit par reconnaître un gond. Jurant mentalement comme un charretier, elle tâtonna jusqu'au côté opposé et rencontra enfin la poignée. La soulevant, elle poussa et parvint à entrouvrir le battant, de 2 pouces au maximum. Les poumons en feu, elle retourna dans la poche d'air, juste le temps de respirer. La deuxième fois, rejoindre la porte fut plus simple. Glissant les doigts dans l'entrebâillement, elle essaya de comprendre pourquoi le battant était bloqué. De la vase. Pourrait-elle se creuser un passage? Sa main remonta et rencontra encore de la vase. Du haut de la porte au bas, il n'y avait que ça. La cabine s'était enfoncée de toute sa hauteur dans cette boue gluante. Quand elle retourna dans la poche d'air, Ninevé s'accrocha au rebord de la banquette au-dessus de sa tête et respira avidement. L'air lui sembla plus épais.
« Je ne mourrai pas ici, »
marmonna-t-elle.
« Je ne mourrai pas ici !»
Elle frappa du poing contre l'arête du siège, jusqu'à s'en faire mal, une façon d'atteindre l'état de rage qui lui permettrait de canaliser. Elle ne mourrait pas. Pas ici, toute seule, sans que personne ne sache où elle avait péri. Pas de tombe, juste un cadavre pourrissant au fond du fleuve. Son bras finit par retomber, soulevant des éclaboussures. Respirer devenait impossible, et des points noirs et argent dansaient devant ses yeux. On eût dit qu'elle regardait à travers un tube. Et toujours pas de colère. Entêtée, elle continua à essayer de s'unir au Saïdar, mais sans croire en ses chances de succès. Eh bien, elle allait mourir ici, au bout du compte. Pas d'espoir. Pas de l'âne. Privée d'espérance, Ninevé Almera fit une chose totalement inédite pour elle. Elle baissa les bras. Le Saïdar se déversa en elle comme un torrent. Au-dessus d'elle, s'aperçut-elle vaguement, le bois explosa, comme éventré, mais vers l'intérieur. Dans un jaillissement de bulles, elle se propulsa vers le haut et traversa la brèche ainsi créée. « À présent, se dit-elle dans son brouillard mental, il fallait faire quelque chose. Oui, mais quoi? Battre des pieds, pensant, et aussi des bras, pour remonter vers la surface. » Quand quelque chose accrocha sa robe, elle paniqua, craignant l'attaque d'un requin, d'un barracuda, ou d'elle ne savait trop quel monstre marin. Ce qui lui restait de lucidité lui rappela qu'elle était unie à la source. Mais elle ne l'écouta pas et battit frénétiquement des jambes et des bras, jusqu'à ce qu'un de ses poings rencontre quelque chose de dur. Hélas, elle ne put s'empêcher de crier. Et l'eau qu'elle avala étouffa son cri, balaya le saïdar et faillit la plonger dans une inconscience fatale. Elle sentit une traction sur sa natte, puis une autre. Quelque chose la tirait, quelque part. Plus assez consciente pour lutter, elle ne frémit même pas à l'idée qu'un monstre allait la dévorer. Puis sa tête émergea à la surface, et des bras se nouèrent par derrière autour de sa taille, des bras, donc rien que pût posséder un requin, et la serrèrent avec une puissance mêlée de douceur des plus familières. Après une quinte de toux, qui lui permit d'expulser ce qui lui sembla être la moitié de l'eau du fleuve, elle put de nouveau respirer. L'expérience la plus exquise de son existence. Une main se glissa sous son menton, puis on recommença à la tirer. Épuisée, elle se laissa faire, heureuse de respirer et de pouvoir admirer le ciel d'un bleu confinant à la perfection. Si ses yeux la piquaient, ce n'était pas seulement à cause de l'eau iodée. On la souleva, la faisant glisser le long de ce qui devait être la coque d'un bateau. Une main plutôt rude, plaquée sur son postérieur, la poussant jusqu'à ce que deux jeunes types, des anneaux de cuivre dans les oreilles, puissent la prendre sous les épaules et la hisser à bord. Ils l'aidèrent à faire quelques pas, mais dès qu'ils la lâchèrent pour aller hisser son sauveur, ses jambes se dérobèrent comme deux colonnes de vase. À quatre pattes, elle regarda sans vraiment les voir l'épée, les bottes et la veste verte que quelqu'un avait abandonnée sur le pont. Puis elle recracha l'autre moitié du fleuve Eldar. Non, tout le fleuve, avec son repas de midi. Encore heureux qu'il n'y ait pas de poisson, voir ses chaussures tant qu'elle y était. Alors qu'elle s'essuyait la bouche, elle entendit des voix d'hommes.
« Monseigneur va bien ? Il est resté longtemps sous l'eau. Oublie-moi, mon gars, et va chercher quelque chose pour couvrir la dame. »
La voix de l'âne, celle que Nineveh entendait en rêve toutes les nuits. Stupéfaite, elle ravala à grand-peine un gémissement. À côté de ce qu'elle éprouvait, sa terreur à l'idée de mourir sous l'eau n'était rien. Non, non et non. C'était un cauchemar. Les retrouvailles ne pouvaient pas se passer ainsi, alors qu'elle ressemblait à un rat noyé, le contenu de son estomac en flaque à ses pieds. Sans réfléchir, elle s'unit au Saïdar et canalisa le pouvoir. Aussitôt, ses vêtements et ses cheveux séchèrent, l'eau qui en tomba emportant son vomi, qui disparut dans un trou d'évacuation. Se relevant péniblement, elle remit son collier en place, lissa ses cheveux et tira sur sa robe. Mais avec l'eau iodée, le mode de séchage radical avait laissé sur la soie des traînées et des plis que seule une main experte, armée d'un fer à repasser, parviendrait à éliminer. Des mèches de cheveux se dressaient sur son crâne, et les opales, dans sa natte, semblaient décorer la queue d'un chat en colère. Aucune importance. Elle était calme, sereine comme une brise printanière, et plus maîtresse d'elle-même que... Désireuse que l'âne ne la fasse pas sursauter en approchant dans son dos, elle se retourna vivement. À cet instant, elle mesura à quel point elle avait agi vite, car l'âne en était encore à son deuxième pas l'éloignant du bastingage. En chemise, pantalon et chaussettes, il était trempé comme une soupe, et divinement beau, avec ses cheveux mouillés tombant sur son visage tout en angle. Une plaie boursouflée lui barrait une joue, comme s'il avait reçu un coup. Se souvenant du moment où son poing avait rencontré quelque chose de dur, Nineveh se plaqua une main sur la bouche.
« Non, l'âne, je suis navré. Je ne voulais vraiment pas. »
Nineveh n'eut pas vraiment conscience d'avoir franchi la distance qui les séparait. Sans savoir comment, elle se retrouva face à l'âne, se dressa sur la pointe des pieds et posa doucement les doigts sur sa blessure. Un habile tissage mêlant les cinq pouvoirs fit disparaître en un éclair la vilaine plaie. Mais l'âne pouvait avoir été touchée ailleurs. Recourant au tissage qui permettait d'examiner un patient, l'ancienne sage-dame frémit, en découvrant une multitude de cicatrices récentes et quelque chose d'étrange. Mais à part ça, l'âne semblait solide et sain comme un taureau de concours. Solide, sain et très mouillé. Nineveh le sécha comme elle l'avait fait pour elle, une grande flaque d'eau se formant à leurs pieds. Ne pouvant s'empêcher de le toucher, elle passa les mains sur ses joues, ses magnifiques yeux bleus, son nez puissant, ses lèvres fermes, ses oreilles. Puis elle lissa ses cheveux noirs brillants et ajusta le fin bandeau de cuir qui les retenait.
« L'âne, l'âne !»
murmura-t'elle, incapable de s'empêcher de parler.
« Tu es là pour de bon !»
Quelqu'un gloussa. Pas elle, car Nineveh, Alm et Ara ne s'abaissaient pas à ça, mais quelqu'un.
« Ce n'est pas un rêve. Par la lumière, tu es là. Mais comment ?»
Au palais Tarassine, une servante m'a dit que tu étais parti en direction du fleuve. Sur le quai, un type m'a indiqué quel bateau tu avais pris. Si Mandarbe n'avait pas perdu un fer, j'aurais été là hier.
Je m'en fiche. Tu es là maintenant. Et c'est tout ce qui compte. Tu es là.
Non. Nineveh, Alm et Ara ne gloussaient pas.
C'est peut-être une Aes Sedai,
dit un des marins. Pas assez doucement pour ne pas être entendu.
Mais moi, je vois une gentille petite chèvre tout à fait disposée à tomber entre les griffes du loup.
Nineveh s'empourpra, plaqua les poings sur ses hanches et tapa du pied sur le pont. En d'autres circonstances, le type aurait vu de quel bois elle se chauffait. Par exemple, dans des circonstances où elle aurait été capable de réfléchir. Mais l'âne chassait de sa tête toute idée qui ne le concernait pas.
« Nous pourrons parler plus librement dans la cabine, »
dit-elle en prenant le bras du champion. Un des marins ricana.
« Mon épée... »«
Je m'en charge. »
Un flux d'air suffit à faire léviter les affaires de l'âne. Un de ses rustres avait ricané. Avec un autre flux d'air, Nineveh ouvrit la porte de la cabine, propulsa l'âne dedans, s'y engouffra avec lui, et referma la porte en la claquant. Au nom de la lumière, Même Calais Copeline, au pays, ne devait jamais avoir osé se comporter si cavalièrement. Pourtant, plus d'un garde du corps de marchand connaissait aussi bien sa marque de naissance que son visage. Mais ce n'était pas comparable, pas du tout. Cela dit, un peu moins d'empressement ne ferait pas de mal. Alors qu'elle tendait les mains vers l'âne, juste pour chasser de son front quelques mèches vagabondes, il lui saisit doucement les poignets.
« Mireille a hérité de mon lien, » dit-il. « Elle m'envoie à toi le temps que tu te trouves un champion. »
Après avoir calmement dégagé sa main droite, Ninevée gifla l'âne de toutes ses forces. Comme il ne broncha pas, elle libéra sa main gauche et recommença l'opération.
« Comment as-tu pu ?»
Pour ponctuer sa question, Ninevée y alla d'une troisième gifle.
« Tu savais que je t'attendais !»
Une quatrième, histoire que les choses soient bien claires.
« Comment as-tu pu faire une chose pareille ? La laisser te voler à moi ?»
Une cinquième gifle, pour que les quatre précédentes ne se sentent pas trop seules.
« L'âne, Mandragoran, que la lumière te brûle ! Qu'elle te brûle jusque dans la fosse de la perdition !»
Cet homme de malheur ne dit pas un mot. Comment aurait-il pu se défendre, en fait ? Immobile, il se laissa frapper, une lueur bizarre dans ses yeux qui ne sillait pas. Rien d'étonnant, cette lueur, vu la grêle de coups qui s'abattait sur lui. Et s'il ne semblait pas physiquement infecté, Ninevée commençait à avoir sacrément mal aux mains. Avec un rictus mauvais, elle serra le poing et le lui propulsa dans le ventre. Un très léger grognement, voilà tout ce qu'elle obtint pour sa peine.
« Nous allons affronter ce problème calmement et rationnellement, »
dit Ninevée en reculant d'un ou deux pas.
« Comme des adultes. »
L'âne acquiesça, s'assit et saisit une de ses bottes. Ninevée utilisa sa main gauche pour mettre en place quelques mèches indisciplinées dans ses cheveux et glissa la droite dans son dos afin de pouvoir plier et replier ses doigts douloureux sans que le champion s'en aperçoive. Il n'avait pas le droit de se montrer si dur, surtout quand elle avait envie de le frapper. Avait-elle réussi à lui fêler une côte ? Hélas, elle en doutait.
« Tu devrais plutôt remercier Mireille, Ninevée. »
Et ce calme inébranlable, quelle horreur ! Ayant fini d'enfiler une botte, il s'attaqua à l'autre, sans regarder la jeune femme.
« Tu ne voudrais pas être lié à moi. »
Un flux d'air saisit les cheveux de l'âne et le força à relever la tête.
« Si tu me resserres ton discours idiot sur le veuvage, que tu ne voudrais pas m'imposer, dis-tu, je vais te... L'âne, Mandragoran, je te... »
Ninevée ne trouva pas quelque chose d'assez fort. Des coups de pied ne feraient pas l'affaire, c'était sûr. Mireille. Mireille et sa cohorte de champions. Que la lumière brûle l'âne. L'écorché vif ne serait sûrement pas suffisant. Comme s'il n'était pas dans une position inconfortable, la tête tirée en arrière, l'âne posa les avant-bras sur ses genoux, regarda Ninevée avec sa bizarre lueur dans les yeux et souffla.
« J'ai envisagé de ne rien te dire. Mais tu as le droit de savoir. »
Il hésita. Une première, depuis que Ninevée le connaissait.
Komwarein est morte. Lorsque le lien d'un champion avec son Aes Sedai est brisé, des changements se produisent.
Ninevée écouta, les bras enroulés autour du torse pour s'empêcher de trembler. À force de serrer les dents, elle eut mal aux mâchoires. Quand elle eut dissipé le tissage d'air qui tenait l'âne par les cheveux, puis qu'elle se fut coupée de la source, il se redressa et continua à lui raconter les horreurs qu'il avait vécues, sans cesser de la regarder et sans même tressaillir. Ninevée comprit ce qu'était la lueur dans ses yeux. La lucidité d'un homme qui sait qu'il est mort et qui ne parvient pas à s'en attrister parce qu'il attend, peut-être impatiemment, le repos éternel. Non sans effort, la jeune femme parvint à ne pas pleurer.
« Tu vois, » conclut l'âne avec un sourire résigné, « quand ce sera fini, Mireille souffrira pendant un mois et un an. Et je n'en serai pas moins mort. Cette épreuve te sera épargnée. Mon dernier cadeau, ma Chiara.
Ma Chiara, mon amour perdu.
Tu es censé être mon champion jusqu'à ce que j'en trouve un ?»
Ninevée s'ébobit de son propre calme. Mais elle ne pouvait pas éclater en sanglots maintenant. Et elle ne le ferait pas. Plus que jamais, elle devait être forte.
« C'est ça, »
fit l'âne, en finissant d'enfiler sa seconde botte. Il avait toujours eu l'air d'un loup à demi apprivoisé. Désormais, son regard était celui d'un animal indompté.
« Parfait. »
Ninevée résista à l'envie de traverser la cabine pour le rejoindre. Il ne devait pas sentir sa peur.
« Parfait, oui. Parce que j'ai trouvé mon champion. Toi, en l'occurrence. À l'époque de Moiraine, j'ai pris mon mal en patience. Mais avec Mireille, pas question. Elle me transmettra ton lien. »
Une certitude, même si pour ça, elle devait la tirer par les cheveux jusqu'à Tarvalon et la ramener à son point de départ. Et même si ce n'était pas obligatoire, ce serait un plaisir.
« Ne dis rien !»
lança Ninevée quand l'âne ouvrit la bouche. Du bout des doigts, la jeune femme toucha sa bourse où était rangée la chevalière d'or de l'âne, enveloppée dans un mouchoir de soie. Elle devait se contenir. Cet homme était malade, et la brutalité n'avait jamais guéri personne. Pourtant, elle aurait aimé le couvrir d'injures. Chaque fois qu'elle l'imaginait avec cette femme, ça lui donnait envie d'arracher sa natte et de la lui jeter au visage.
« L'âne, à deux rivières, quand une personne donne une bague à une autre, c'est un engagement. »
Un mensonge éhonté. Un moment, Ninevé redouta que l'âne se lève d'un bond outragé, mais il se contenta de battre des paupières avec lassitude. Un mensonge, peut-être, mais elle avait trouvé l'idée dans une légende.
« Nos fiançailles ont assez duré. Nous allons nous marier aujourd'hui. »
« J'ai prié pour que ça arrive. Il fut un temps... Mais tu sais que c'est impossible. Et même dans le cas contraire, Mirel... »
Malgré ses bonnes résolutions, l'ancienne sage-dame s'unit au Saïdar et bâillonna l'âne avec un tissage d'air avant qu'il ait pu lui avouer ce qu'elle ne voulait pas entendre. Tant qu'il n'aurait pas parlé, elle pourrait faire comme si rien n'était arrivé. Cela dit, quand elle mettrait la main sur Mirel... Les opales s'enfonçant dans sa paume, elle lâcha sa natte comme si elle était en flamme. Pour s'occuper les mains... Elle lissa de nouveau les cheveux de l'âne, qui la regarda avec une franche indignation.
« Une petite leçon sur la différence entre les épouses et les autres femmes, »
plaisanta-t-elle, alors qu'elle aurait eu envie de rugir.
« Au fait, j'apprécierais que tu ne mentionnes plus jamais le nom Mirel en ma présence. C'est compris ?»
L'âne acquiesçant, la jeune femme le libéra. Après avoir fait jouer deux ou trois fois sa mâchoire, il lâcha.
« Ninevé, sans citer de nom, tu sais très bien que cette femme est consciente de tout ce qui m'arrive. C'est ainsi que fonctionne le lien. » Si nous étions mariés...
Ninevé crut que ses joues allaient prendre feu. Elle n'avait jamais pensé à ça. Fichu Mirel.
Il existe un moyen de lui faire savoir à coup sûr que c'est moi?
Cette fois, ses joues s'étaient embrasées. Ça ne faisait pas de doute. S'adossant à la cloison de la cabine, l'âne éclata de rire.
Par la lumière! Ninevé, tu es un oiseau de proie. Je n'ai pas ri comme ça depuis.
Le champion se reprit. La mine de nouveau sinistre.
J'aimerais que ça arrive, mais c'est impossible.
Ça n'a rien d'impossible, et ça arrivera.
Quand on les laissait parler trop longtemps, les hommes semblaient toujours avoir pris le dessus. Sans crier gare, Ninevé s'assit sur les genoux de l'âne. Il n'était pas encore marié, certes, mais la banquette de ce bateau était atrocement dure. Non que la différence avec les cuisses musclées de l'âne soit immense, mais...
L'âne Mandragoran, il va falloir te faire à cette idée. Mon cœur t'appartient. Et tu as reconnu un jour que le tien est à moi. En d'autres termes, tu es à moi. Tu seras mon champion et mon mari, et pendant très longtemps. Parce que je ne te laisserai pas mourir. Tu as compris? Quand il le faut, je peux être très entêté.
Vraiment? Je n'avais pas remarqué.
Un ton très sec pour une plaisanterie.
L'essentiel, c'est que tu t'en aperçoives maintenant.
Se tordant le cou, Ninevé jeta un coup d'œil dehors par le hublot qui se trouvait derrière l'âne, puis elle tourna la tête vers la sculpture ajourée sur le devant de la cabine. Sur le côté, des quais de pierre. Sur le devant, d'autres quais. Et plus loin, la ville dans toute sa blancheur sous le soleil de l'après-midi.
Où allons-nous?
J'ai demandé aux marins de nous ramener à quai dès que tu serais à bord. Il m'a semblé judicieux de filer aussi loin que possible de l'endroit du naufrage.
Tu...
Ninevé ravala ses critiques. L'âne ignorait où elle allait et pour quelle raison. Dans ces circonstances, il avait fait pour le mieux, en lui sauvant la vie au passage.
L'âne, je ne peux pas retourner en ville pour le moment.
Ninevé s'éclaircit la voix et changea de ton. Oui, elle devait être douce avec cet homme. Mais un sirop si sucré allait finir par lui flanquer la nausée.
« Je dois aller sur le coureur des vents, un bateau du peuple de la mer. »
Là, c'était mieux. Un ton léger, mais pas trop, et non dépourvu de fermeté.
« J'étais juste derrière ton bateau, »
dit l'âne.
« J'ai vu ce qui est arrivé. Alors que tu étais à 10 longueurs devant moi, tu t'es retrouvé à 10 longueurs derrière, dans un bateau en train de couler. » Les torrents de feu.
L'âne n'eut pas besoin d'en dire plus. Mais Ninevé, détentrice de connaissances qu'il n'avait pas, tira les conclusions qui s'imposaient.
« Mogadienne, »
souffla-t-elle. Il aurait pu s'agir de n'importe quel autre rejeté, voire de l'âge à noir, mais elle n'avait pas le moindre doute. Eh bien, en deux occasions, elle était venue à bout de Mogadienne. Pourquoi pas une troisième? Hélas, son visage ne dut pas refléter sa confiance.
« N'aie pas peur. » dit l'âne en lui effleurant la joue. « Quand je suis près de toi, inutile d'être effrayé. Si tu dois affronter Mogadienne, je ferai en sorte que tu sois assez en colère pour canaliser. On dirait que je suis doué pour ça. »«
Tu ne me mettras jamais plus en colère. »
commença Ninevé. Elle regarda l'âne, les yeux écarquillés.
« D'ailleurs, je ne le suis pas. »
« Bien sûr. Mais quand tu devras l'être,
Je ne suis pas en colère,
dit Ninévée en riant. Elle sauta de joie, puis tapa allègrement sur la poitrine du champion. Le Saïdar l'emplissait de vie et de bonheur, comme toujours, mais également de stupéfaction.
L'âne, je ne suis pas en colère, et j'ai canalisé le pouvoir.
Le champion eut un sourire qui ne se communiqua pas à ses yeux. Il avait compris, mais ça ne lui donnait pas envie de bondir d'enthousiasme.
Je prendrai soin de toi, l'âne Mandragoran. Je ne te laisserai pas mourir.
Se serrant contre l'âne, Ninévée eut envie de l'embrasser, voire d'aller plus loin.
Tu n'es pas Calécopline,
se morigéna-t-elle. Soudain, une pensée terrible lui traversa l'esprit.
Les rameurs? Les gardes du corps?
L'âne secoua tristement la tête. Des gardes du corps. C'était eux qui auraient eu besoin de la protection de Ninévée, pas le contraire. Avec les rameurs, ça faisait 4 morts de plus au palmarès de Mogadienne. 4 sur des milliers, mais là, il s'agissait d'une affaire personnelle. Hélas, le moment d'en finir avec la rejetée n'était pas encore venu. Ninévée se releva et essaya de voir comment elle pouvait arranger sa tenue.
L'âne, tu veux bien dire aux rameurs de faire demi-tour et de ne pas lésiner sur le jus de muscle?
Au rythme que prenaient les choses, pas question d'escompter être au palais avant la tombée de la nuit.
Demande-leur s'ils ont quelque chose qui ressemble à un peigne.
Impossible de se présenter devant Nesta dans cet état. L'âne prit son épée et sa veste et s'inclina.
À tes ordres, Aes Sedai.
Ninévée regarda la porte se refermer avec une moue dubitative. Il se moquait d'elle, non? Sur le coureur des vents, on devait sûrement pouvoir trouver quelqu'un capable de célébrer un mariage. En connaissant les Ataan Miré, il y avait gros à parier que l'âne serait bien obligé de jurer tout ce qu'on lui demanderait de jurer. Après ça, on verrait qui se moquerait de qui. Le bateau tanga et roula, tandis qu'il faisait demi-tour.
« Lumière, non !»
s'écria Ninévée en se laissant tomber sur la banquette. En plus de son blocage, n'aurait-elle pas pu perdre aussi son maudit mal de mer? Et quand on était unis au Saïdar, les sens décuplés, ça se révélait encore pire. Ninévée se coupa de la source, sans que ça améliore son sort. Pas question d'être de nouveau malade. Une bonne fois pour toutes, elle allait s'approprier l'âne. Une merveilleuse journée, non? Pourtant, elle continuait à sentir qu'une tempête se préparait. Le soleil sombrait derrière les toits quand Elaine frappa à la porte. Derrière elle, les fêtards se déchaînaient, dansant et riant dans la rue. Dans un coin de sa tête, la fille héritière regretta de ne pas pouvoir profiter de la fête. Porter un déguisement comme celui de Birgit aurait été amusant, ou même une tenue semblable à celle de Rizel, une des dames de compagnie de Tailin. Tant qu'on pouvait garder son masque, le reste ne tirait pas à conséquence. Elle frappa de nouveau. La servante aux cheveux gris et à la mâchoire carrée ouvrit la porte. Dès qu'Elaine eut abaissé son masque vert, la femme explosa.
« Toi, que fiches-tu ? »
La servante pâlit, sa colère oubliée, lorsque Merylil, Adéléas et les autres sœurs qui accompagnaient Elaine dévoilèrent aussi leur visage. Chaque fois qu'un visage sans âge apparaissait, la femme sursautait, et elle frémit aussi quand ce fut au tour de Sarita de retirer son masque. Sans doute parce qu'elle avait compris depuis un court moment ce qui se passait. Elle tenta de refermer la porte, mais Birgit intervint, la rouvrant d'un bon coup d'épaule emplumé. La servante recula de quelques pas, puis se prépara à fuir ou à crier. Mais l'archère bondit et la prit par le haut du bras.
« Du calme !»
dit-elle.
« Nous ne voulons pas de scandale. »
Alors que Birgit lui tenait simplement le bras, la pauvre femme semblait paralysée. Peut-être à cause du masque à crête de l'héroïne.
« Comment te nommes-tu ? »
demanda Elaine, tandis que tout son petit monde la suivait dans le hall d'entrée. Quelqu'un ferma la porte, occultant le vacarme de l'extérieur. Affolée, la servante regarda alternativement toutes les Aes Sedai, comme si elle avait été incapable de garder les yeux longtemps sur l'une d'elles.
« C'est Dora. Eh bien, c'est Dora. Tu vas nous conduire jusqu'à Réan. »
La femme hocha docilement la tête. Puis elle s'engagea dans l'escalier, Birgit la tenant toujours fermement. Elaine envisagea de lui dire de lâcher sa pathétique proie, mais elle y renonça, ne voulant pas d'un branle-bas de combat dans la maison, si Cédora se mettait à crier. C'était pour ça que Birgit utilisait la force, alors que plusieurs Aes Sedai auraient pu recourir au Saïdar, mais pas sans que les occupantes de la maison le sentent. Cédora avait plus de peur que de mal, et ce soir, tout le monde allait être un peu effrayé.
« C'est là !»
souffla Cédora en désignant une porte rouge, celle où Ninévée et Elaine avaient subi ce désastreux interrogatoire. La fille héritière ouvrit la porte et entra. Réan était assise dans un fauteuil, la cheminée illustrant les 13 péchés dans son dos. Une dizaine d'autres femmes qu'Elaine n'avait jamais vues occupaient tous les sièges. Fenêtres fermées et rideaux tirés, les malheureuses suaient à grosses gouttes. Bien qu'une seule eût le teint olivâtre du coin, toutes portaient une robe des boudards. Presque toutes d'âge mûr, ces femmes étaient capables de canaliser à un degré ou à un autre. Sept d'entre elles portaient une ceinture rouge. Accablée, Elaine eut un gros soupir. Quand Ninevé avait raison, elle n'était pas du genre à le laisser oublier à ses contradicteurs. Réanne se leva d'un bond, aussi furieuse que Cédora un peu plus tôt, et ses premiers mots firent écho à ceux de la servante.
« Toi, que fiches-tu ici ?»
Comme Cédora, Réanne se tut lorsqu'elle vit Merylil et les autres entrer derrière Elaine. Une femme blonde, portant une ceinture rouge sur sa robe au décolleté plongeant, poussa un petit soupir et glissa de sa chaise, les yeux révulsés. Personne ne fit mine d'aller la secourir, et pas un regard ne suivit Birgit quand elle guida Cédora jusqu'à un coin de la pièce, lui faisant comprendre de ne plus bouger. Dans le silence tendu, Elaine eut envie de crier soudain « Bouh !» histoire de voir ce qui se passerait. Blanche comme un linge, Réanne chancelait sur ses jambes. Tentant de se ressaisir, elle dévisagea les cinq Aes Sedai en rang devant la porte pour déterminer qui commandait ce détachement. Ayant fait son choix, elle alla s'agenouiller devant Merylil.
« Pardonne-nous, Aes Sedai !»
dit-elle d'une voix pleine d'adoration et aussi tremblante que tout le reste de son corps.
« Nous ne sommes qu'un petit groupe d'amis, sans rien à nous reprocher, et surtout pas d'avoir jeté le discrédit sur les Aes Sedai. Tu dois me croire, quoi que cette fille ait pu te dire. Nous vous aurions bien signalé son existence, mais nous avons eu peur. En fait, je n'ai eu qu'une courte conversation avec son amie et elle. Au fait, vous avez attrapé cette deuxième usurpatrice ? Si une description peut servir, je suis prête à la fournir. Nous sommes toutes disposées à aider les sœurs, et je jure que... »
Merylil se racla bruyamment la gorge.
Si je ne me trompe pas, tu te nommes Réanne Corly. »
Les yeux toujours baissés, Réanne fit signe que c'était ça.
« Désolé, mais je crains que tu doives t'adresser à Elaine Sedai. »
La fille héritière se régala de voir Réanne sursauter de surprise. Levant les yeux, elle dévisagea Merylil, puis tourna lentement la tête vers Elaine Sedai. Le souffle court, elle pivota sur ses genoux pour faire face à la fille héritière.
« J'implore ton pardon, Aes Sedai. Je ne savais pas. Et comment aurais-je pu m'en douter ? Quelle que soit ta sentence, nous l'accepterons, bien entendu. Mais je te supplie de croire que... Bon, debout maintenant !»
lança Elaine à bout de patience. Elle avait voulu que Réanne lui témoigne le même respect qu'à Merylil et aux autres. Mais tant de servilité lui donnait la nausée.
« Tout va bien. Relève-toi. »
Attendant jusqu'à ce que Réanne ait obéi, Elaine alla ensuite s'asseoir dans son fauteuil. En rajouter était inutile, mais il fallait quand même bien préciser qui commandait qui.
« Tu continues à prétendre ne rien savoir de la Coupe des Vents ?»
Réanne écarta les mains.
« Aes Sedai, aucune d'entre nous n'oserait utiliser un terrain gréal, et encore moins un angréal ou un sangréal. »
Un ton sincère, mais plein d'inquiétude. L'angoisse d'un renard perdu dans une ville.
« Sois-en assuré, nous n'avons pas la prétention de ressembler aux Aes Sedai, de près ou de loin. Des amis liés par le fait d'avoir un jour été autorisés à entrer dans la Tour Blanche. Voilà ce que nous sommes. C'est ça, oui, des amis,
dit froidement Elaine.
Auxquels il faut ajouter Berowyn, Terris et Alise. Oui, elles aussi. Réanne, la Tour Blanche connaît l'existence de la famille. Et ce, depuis toujours.
Une femme à la peau sombre, le type théarien, qui arborait le gilet de soie bleu et blanc de la guilde des joailliers, regarda Elaine, eut un cri étranglé, et plaqua ses mains potelées sur sa bouche. Simultanément, une grisonnante ressortissante du Saldaea, la ceinture rouge autour de la taille, alla rejoindre la blonde sur le sol. Deux autres femmes oscillèrent sur leurs chaises, comme si elles allaient suivre cet exemple. Réanne regarda les sœurs debout devant la porte, quêtant une confirmation. Bien entendu, elle l'obtint. Le visage plus figé que serein, Merylil semblait très mal à l'aise, et Sarita ne put s'empêcher de faire la grimace. Alors que Vanden et Carian pinçaient les lèvres, Adéléas étudiait les membres de la famille avec l'intérêt qu'elle aurait accordé à des insectes qu'elle voyait pour la première fois. Bien entendu, ce que Réanne voyait ne correspondait pas à la réalité. Toutes ses sœurs acceptaient l'autorité d'Elaine et ne contestaient pas radicalement ses décisions. Mais ça ne les forçait pas à aimer la situation. Sans leur protestation courtoise, le groupe aurait déjà été là depuis 2 heures. Parfois, commander était synonyme de mener à la baguette. Réanne ne s'évanouit pas. Mais elle blêmit encore plus et leva des mains implorantes.
« Avez-vous l'intention de détruire la famille ? Pourquoi maintenant, après si longtemps ? Qu'avons-nous fait pour mériter ça ?
Personne ne vous détruira,
lâcha Elaine.
Karehan, puisque personne ne se soucie de ces deux pauvres femmes, veux-tu t'en charger ?
Avant que Karehan ait levé le petit doigt, deux femmes, piquées au vif, se ruèrent au secours de la blonde et de l'autre évanouie, leur faisant respirer des sels.
La chair d'Amirline, en tant que toutes les femmes capables de canaliser, est un lien avec la tour,
continua Elaine.
Cette offre vaut pour toutes celles d'entre vous qui désirent l'accepter.
Si elle avait enveloppé chacune de ces femmes d'un tissage d'air, Elaine ne les aurait sans doute pas pétrifiées davantage. Et même en serrant très fort son tissage, elle n'aurait pas pu leur faire sortir les yeux de la tête à ce point. Puis, une des femmes qui s'était évanouie eut une quinte de toux et repoussa la fiole de celle qui était sous son nez depuis trop longtemps. Comme si c'était un signal, toutes les femmes du cercle se mirent à parler en même temps.
« Nous allons pouvoir devenir des Aes Sedai ?»
demanda la Théarienne, tout excitée.
« Elles nous permettront d'apprendre ?»
lança une femme au visage rond qui portait une ceinture rouge.
« Les sœurs nous formeront ?»
un vacarme insupportable.
« Nous pourrons vraiment... Il sera possible de... »
Réanne se tourna vers ses compagnes, l'air indigné.
« Ivara, Sumiko et toutes les autres, où vous croyez-vous donc ? Vous jacassez devant des Aes Sedai ? Oui, des Aes Sedai !»
Réanne posa sur son visage une main tremblante. Aussitôt, un silence embarrassé se fit. Devant ses yeux baissés et ses joues rouges, Elaine eut l'impression, malgré les tempes grisonnantes et les rides, de se trouver devant une bande de novices, surprises par leur maîtresse à disputer une bataille de polochon après le couvre-feu. Réanne regarda timidement Elaine à travers ses doigts écartés.
« Nous aurons vraiment le droit de retourner à la Tour Blanche ?»
Elaine acquiesça.
« Celles qui sont susceptibles de recevoir le châle pourront tenter leur chance. Mais il y aura une place pour toute femme capable de canaliser. »
Des larmes perlèrent aux paupières de Réanne, et Elaine crut l'entendre murmurer
« Je ferai peut-être partie de la Javert. »
La fille héritière eut tout le mal du monde à s'empêcher d'aller enlacer Réanne. Les autres à Aes Sedai ne semblaient pas gagnés par l'émotion, et Myrilil moins que tout autre.
« Elaine, puis-je poser une question ?»
demanda-t-elle.
« Réanne, combien d'entre vous devrons-nous accueillir ?»
L'hésitation cachait sans doute un changement de dernière seconde, car un « combien de naturels et d'incapables ayant échoué une première fois » aurait risqué de gâter quelque peu l'atmosphère. Réanne ne s'en aperçut pas, ou s'en ficha comme d'une guigne.
« Je n'imagine pas qu'une seule des nôtres refuse cette proposition, »
dit-elle, le souffle court.
« Mais il faudra un moment pour prévenir tout le monde. Nous restons éparpillés par sécurité. »
Elle eut un rire nerveux, pas très éloigné d'un sanglot.
« Pour que les Aes Sedai ne nous repèrent pas. À ce jour, il y a 1783 noms sur notre registre. »
La plupart des Aes Sedai étant expertes en l'art de dissimuler leur surprise sous une sérénité de façade, seule Sarayta écarquilla les yeux. Elle remua aussi les lèvres en silence. La connaissant assez, Elaine put lire ce qu'elle disait.
« 2000 naturels, au secours !»
Jusqu'à ce qu'elle soit sûre que son visage ne la trahirait pas, Elaine fit mine de tirer sur sa robe. « Au secours, oui, c'était assez bien vu. » Réanne se méprit sur le silence qui accueillit sa déclaration.
« Vous espériez plus ? Chaque année, les accidents et les morts naturelles fauchent les membres du cercle, comme ça se passe pour les gens normaux. La famille est devenue plus petite au fil des siècles. Peut-être parce que nous nous sommes montrées trop prudentes, ne contactant pas toutes les femmes qui quittaient la tour, de peur que l'une d'entre elles nous dénonce et...
Nous ne sommes pas déçus. »
coupa gentiment Elaine. Déçus ? Certes pas, mais il y avait de quoi éclater d'un rire hystérique. La famille comptait deux fois plus de membres qu'il y avait d'Aes Sedai, loyalistes et renégates comprises. Egwen ne pourrait jamais se plaindre qu'on ne lui ait pas ramené assez de femmes capables de canaliser. Mais si le cercle refusait les naturels... Bon, il fallait en revenir à l'essentiel. Enrôler la famille n'était qu'un bonus dû à la chance.
« Réanne, crois-tu que tu pourrais consentir à nous en dire plus sur la Coupe des Vents, maintenant que tout va bien ?»
Réanne s'empourpra.
« Nous n'avons jamais touché ces artefacts, la Aes Sedai, et je ne sais pas pourquoi ils sont conservés en cet endroit. Pour être franche, je n'ai jamais entendu parler de la Coupe des Vents. Mais il y a une remise semblable à celle que tu as décrite, quelque part dans... »
Au rez-de-chaussée, une femme canalisa le pouvoir, et quelqu'un hurla de terreur. Elaine se leva d'un bond, comme les membres du cercle. Dessous sa robe emplumée, Birgit tira une dague.
« Ce doit être Deris, »
dit Réanne.
« En bas, il n'y a qu'elle. »
Sur ces mots, elle se précipita vers la porte, mais Elaine intercepta en chemin.
« Tu n'es pas encore une sœur verte, »
dit-elle. Réanne sourit avec un mélange de surprise, de jubilation et de timidité.
« Nous allons nous charger de ça. »
Merylil et les autres s'écartèrent pour laisser passer la fille héritière et lui emboîter le pas. Mais Birgit devança tout le monde et eut un sourire triomphant en posant la main sur la poignée de la porte. Elaine ne fit pas de commentaire. C'était l'honneur des champions, premier à entrer et dernier à sortir. Cependant, elle s'unit à la source et s'emplit de Saïdar, prête à écrabouiller quiconque menacerait sa championne. La porte s'ouvrit avant que Birgit ait pu faire jouer la poignée. Matt entra, poussant devant lui la servante mince, qu'Elaine avait également vue lors de sa première visite.
« Je me disais bien que tu serais ici »,
lança le jeune flambeur avec un sourire insolent. Ignorant le regard furibond de Deris, il ajouta.
« Cette idée m'est venue quand j'ai vu une bande de champions en train de lever le coude, dans celle de mes tavernes que j'aime le moins. Je venais de suivre une femme dans le Rahad, jusqu'au dernier niveau d'une maison où personne n'habite, pour être précis. Après son départ, grâce au sol couvert de poussière, j'ai pu voir sans problème dans quelle pièce elle était allée. Un gros cadenas défend la fichue porte, mais je parie 1000 couronnes contre un coup de pied aux fesses que votre maudite coupée d'arrière. »
Deris lança un coup de pied dans la direction du jeune homme. La repoussant, il tira ensuite un petit couteau de sa ceinture et le fit sauter dans sa paume.
« Quelqu'un veut bien dire à cette tigresse de quel côté je suis ? Par les temps qui courent, les femmes armées d'une lame me donnent des frissons. « Nous savons déjà tout ça, Matt !»
dit Elaine. Ce n'était pas tout à fait exact, puisque l'intrusion du jeune homme avait interrompu Rhéanne. Mais la stupéfaction qui s'afficha sur son visage n'avait pas de prix. Elaine sentit quelque chose émaner de Birgit. L'archère la regardait sans que rien ne s'inscrive sur ses traits. Mais dans un coin de sa tête, la fille héritière capta de la désapprobation. Et Aviendar aurait sans doute partagé cette réaction. Au prix d'un effort surhumain, Elaine réussit à ouvrir la bouche et à parler.
« Je te remercie quand même, Matt. C'est grâce à toi que nous avons trouvé ce que nous cherchions. »
Voir le jeune flambeur en rester muet de surprise consola presque Elaine de sa peine.
« Dans ce cas... »
dit Matt quand il se fut repris.
« Louons un bateau, puis allons chercher cette fichue coupe. Avec un peu de chance, nous pourrons quitter Eboudar dès ce soir. »
« C'est ridicule, Matt. Et ne me dis pas que je te bouscule. Nous n'irons pas dans le Rahad alors que la nuit tombe. Et nous ne partirons pas d'Eboudar avant d'avoir utilisé la coupe des vents. »
Matt tenta de polémiquer, mais Deris en profita pour lui décocher un nouveau coup de pied. Se cachant derrière Birgit, le jeune homme implora que quelqu'un le débarrasse de la furie qui fondait à présent sur lui.
« Cet homme est ton champion ?»
demanda Rhéanne à Elaine.
« Non, que la lumière en soit remerciée. C'est Birgit, ma championne. »
Rhéanne en resta bouche bée. Elaine en profita pour lui poser une question qu'elle n'aurait jamais osé hasarder face à une autre sœur.
« Rhéanne, si tu ne juges pas ça trop indiscret, puis-je savoir quel âge tu as ?»
Rhéanne hésita, regardant Matt, mais il était toujours occupé à garder Birgit, très amusée, entre Deris et lui.
« Mon prochain anniversaire, »
dit Rhéanne, comme si c'était la chose la plus banale au monde,
« sera le 412e. »
Merylil en tomba littéralement à la renverse, évanouie.